François Copé, l'invitation au sommeil. Quand il n'était qu'un tout petit garçon, autrefois, chez ces braves gens de père et mère, c'était le meilleur moment de la journée. Le dîner était fini, la maman, après avoir donné un coup de serviette à la toile cirée, servait la demi-tasse du père. Le père qui seul prenait du café, oh non pas par luxe et gourmandise, mais parce qu'il devait veiller très tard à faire des écritures. Et tandis que le bonhomme sucrait son mocha, un seul morceau bien entendu, devant toute la famille assise autour de la table ronde, la maman, une boulotte de 40 ans, encore fraîche, tournant ses yeux sans cesse vers son mari, de tendres et intelligents regards de chien fidèle, la maman apportait le panier à ouvrage. Les trois sœurs, nées à un an de distance, se ressemblant chastement jolies, avec des robes fines faites dans la même pièce d'étoffe, et les honnêtes bandeaux plats des filles sans dot qui ne se marieront pas, commençaient à ourler des mouchoirs. Et lui, le gamin, le dernier-né, le Benjamin, exhaussé sur sa chaise, haute par une bible de Royaumont, in quarto, édifiait des châteaux de cartes. En juillet, dans les longs jours, on allumait la lampe plus tard possible, et par la fenêtre ouverte, on voyait un ciel orageux du soir d'été, aux nuages bouleversés, et le dôme des Invalides, tout écaillé d'or dans la fournaise du couchant. Et comme c'est très mauvais pour la digestion d'écrire comme ça tout de suite après le dîner, on faisait un peu causer le père afin de retarder le moment où il se mettrait au travail du soir, des copies, des mémoires, à deux sous le rôle pour un entrepreneur du quartier. Le pauvre homme, une nature de rêveur et d'esprit littéraire, qui jadis, dans sa chambre d'étudiant, avait rimé des odes panhellènes, en était arrivé là, ayant perdu l'espoir de passer sous-chef et employé toutes ses soirées à copier du jargon technique, démonter, remonter la serrure, donner un peu de jeu à la gâche, etc., etc. Mais pour le moment, il s'oubliait à bavarder avec sa femme et ses filles, gaiement, car tout allait à peu près bien dans l'humble ménage. Un marchand de bon Dieu de la place Saint-Sulpice avait offert à l'aîné la grande Fanny, l'artiste, celle dont les Anglaises blondes faisaient rêver tous les rapins de son carré, de lui payer 50 francs son pastel d'après la Vierge avec coussin vert. La seconde, Léontine, avait pioché toute la journée son menuet de Boccherini. Quant à la grosse Louise, la cadette, elle ne pensait qu'à la coquetterie décidément. Et ne voilà-t-il pas qu'elle parlait, s'il y avait des gratifications au 15 août, de s'arranger une petite capote pareille à celle qu'elle avait vue chez la modiste de la rue du Bac. « Mais Louise, mon enfant, s'écria le père, tu fais des chapeaux en Espagne. » Elle en riait. Mais la maman pensait au sérieux, elle. Si le père obtenait une gratification, elle avait remarqué au petit Saint-Thomas un mérinos bon teint de grande largeur pour vos soirées d'hiver, mademoiselle. Et elle ajoutait gravement: Oh, cette houlaine! Comme si le coton n'eût jamais existé, et comme si, à cause de lui, des milliers de nègres fussent pas souffert plusieurs siècles de l'esclavage. Et tout à coup, oh, il faisait presque nuit dans la chambre, le père s'apercevait que son petit garçon venait de s'endormir, la tête sur son bras replié, parmi l'écoulement du dernier château de cartes. Ah ah! Disait joyeusement le brave homme. Le marcheur de sable a passé. L'exquise minute. Oh, il ne l'oubliera jamais, le gamin qui a des cheveux gris maintenant. Sa mère le prenait dans ses bras et il sentait la barbe rude de son père et les lèvres fraîches de ses trois sœurs se posaient tour à tour sur son front ensommeillé. Puis, avec une délicieuse sensation d'évanouissement, il laissait tomber sa petite tête sur l'épaule maternelle et il entendait confusément une voix douce, oh douce et si caressante, murmurer près de son oreille. Maintenant, il s'agit de faire dodo. 20 ans plus tard, il était un poète inédit, un étudiant en rime, et il faisait une petite partie de campagne avec sa chère petite Maria, une modiste ressemblant à une madone du Corrège qui serait anglaise. À l'arrivée, en descendant de la voiture, public et en déposant son léger bagage dans la chambre d'auberge, il avait bien ri, elle et lui, du brevet de maître d'armes encadré de bouquets de fleurs d'oranger sous un globe du grand lit à bateau et du papier de tenture où se reproduisait à l'infini le nabab fumant son chibouk sur un éléphant. Mais quand ils eurent ouvert la fenêtre donnant sur la campagne et qu'ils virent devant eux la route forestière, la route humide et verte, fuyant sous les châtaigniers, ils poussèrent un cri de joie, les Parisiens. Et dans leur enthousiasme, ils se donnèrent un baiser en pleine bouche devant la nature. Et depuis 2 jours de juin, trop chaud à l'atmosphère de bain trempé de courtes averses, ils vivaient là, battant les bois du matin au soir, et avant de se coucher, laissant la fenêtre ouverte pour être réveillé par les pinsons. Et ils étaient si heureux, si heureux, qu'ils avaient oublié tout leur passé et qu'ils leur semblaient voir toujours, avoir toujours habité cette chambre rustique. Elle y avait mis le charme de l'intimité, la jolie blonde. En jetant, au retour de toutes ses promenades, son ombrelle sur le couvre-pied du lit, et en posant sur le globe aux fleurs d'oranger son coquet chapeau de grisette. Oh, déjà, il avait eu des maîtresses, mais celle-ci était vraiment la première, la seule qui l'eût aimé ainsi. Avec cet abandon, avec cette confiance, douce, silencieuse, aimante et mignonne, avec ses yeux tendrement malins. Il était fou d'elle, fou de l'odeur fraîche qu'elle exhalait, de ses mots d'enfant, de la moue si sage et si sérieuse de sa bouche quand elle était pensive. Et elle l'aimait si naïvement. Et s'il restait 2 jours sans la voir, elle lui écrivait d'une grosse écriture maladroite de si adorables lettres pleines de sentiments et de tout, faute d'orthographe. Voilà longtemps qu'il projetait de faire cette bonne partie, longtemps qu'il n'avait pas pu. Pourquoi ? Parce que sa liberté était rare, et aussi à cause de ce bête d'argent qui manque tous les jours. Mais enfin, ils en étaient donnés tous les deux du bon temps et du grand air. Ils avaient mangé des artichauts à la poivrade, sous la tonnelle fleurie de capucine, bu du rejaglais qui râpe le gosier, et couché dans des draps de paysans bien blancs et bien rudes. Ils avaient surtout couru au hasard sous le taillis où elle avait cueilli et mangé des mûres et des fraises sauvages, et où, comme un berger de Théocrite et comme un calicot du dimanche, il avait gravé son initiale et celle de Maria avec son canif sur l'écorce blanche d'un bouleau. Mais l'instant le plus doux de ces douces heures, l'instant dont le souvenir fera naître comme un souvenir sur ses lèvres de vieillard dans 40 ou 50 ans, quand il traînera sa canne d'invalide sur le sable de la petite Provence, ce fut vers 11 heures du soir, la veille du départ. Comme il pleuvait à verse, il s'était attardé devant la cheminée de la cuisine, lui séchant ses gros souliers de chasse, et elle arrangeant la gerbe de fleurs des champs qu'elle voulait rapporter à Paris. Puis ils s'étaient remontés dans leur chambre, où ils s'étaient fourbancés quelque temps en riant d'entendre dans la salle basse traîner la jambe boiteuse de l'aubergiste qui refermait ses volets. Et enfin, tout s'était tu, la pluie avait cessé, et il s'était senti tout à coup environné par le grand silence et la profonde solitude de la campagne nocturne. Sans rien dire, elle prit l'unique bougeoir, le posa sur la cheminée devant la glace sombre, et tachée par les mouches, et elle commença sa toilette de nuit. Lui, plongé au fond du grand fauteuil, les jambes croisées, la regardait tout engourdie de bonheur et de fatigue. Elle avait retiré sa robe et son jupon, et gardant seulement son corset de satin noir qui étreignait sa taille mince, elle leva gracieusement, pour tordre son chignon, ses bras un peu grêles au-dessus de sa tête, quand elle vit dans la glace son amant qui lui souriait, et elle lui rendit son sourire. Comme il l'aimait dans ce moment-là, comme il l'aimait bien, sans désir. Deux nuits d'ivresse les avaient éteints, mais il était plus tendre encore dans son accablement, devant le lit préparé qui embaumait la lavande, devant les deux oreillers jumeaux. Il savourait d'avance la volupté délicate de s'abandonner à l'étreinte de son ami, de lui dire bonsoir dans un baiser sans fièvre et de s'endormir sur ce cœur simple qui ne battait que pour lui. Et c'est alors que, semblant deviner ses pensées, elle était venue s'asseoir sur ses genoux, l'avait pris dans ses petits bras et le regardant de tout près avec des yeux fins et doux qu'elle fermait à demi de sommeil, elle lui avait dit, comme un enfant qui veut être bercé d'une voix mourante de lassitude, « Maintenant, il s'agit de faire dodo. » Aujourd'hui, il se fait vieux, le conteur d'histoires d'amour, le marchand de rêves. 50 ans, tout à l'heure, les cheveux poivre et sel, la patte d'oie au coin de l'œil et l'estomac gâté. Une mauvaise pierre dans son sac, comme on dit. Et ce matin, lorsqu'il s'est réveillé, la bouche amère, et qu'il a lu le billet de faire part, il n'a pas voulu tout d'abord aller à cet enterrement. Saluer le cercueil d'un homme qu'il méprisait, à quoi bon cette hypocrisie? C'était un confrère, sans doute. Quel mot absurde. Mais un drôle, une plume vénale. Et pourtant, il n'avait pas eu à s'en plaindre de ce malheureux. Au contraire, sans intérêt personnel, par simple goût, ce journaliste lui avait toujours montré une sympathie dont il rougissait. Il l'avait loué avec tact et même chaudement défendu dans de mauvais jours. On était sinon des amis, du moins des camarades. On se serrait la main quand on se rencontrait par hasard, dans la rue ou aux premières. Allons, il suivrait ce qu'on voit. Il devait aux morts cette politesse. Et par ce sale et pluvieux matin de novembre, il s'était rasé et habillé de bonne heure. Il avait déjeuné à la hâte. Oh, les œufs n'étaient pas frais, pas. Il avait pris un fiacre qui sentait le chien mouillé. Il était arrivé en retard à l'église quand le service funèbre était presque terminé. Portez armes, présentez armes. Et le tambour voilé battait au chant. Des soldats. Ah oui, c'est vrai. Il y a une croix d'honneur sur le catafalque. Celui qu'on enterrait était autrefois. Il l'avait ramassé dans la boue d'une intrigue politique où des filles se trouvaient mêlées. Et le poète, en s'inclinant pour l'élévation, se sent tout honteux de son ruban rouge. Mais, puisqu'il est venu, il va jusqu'au bout. On vient de donner l'absoute. Il prend la file, jette l'eau bénite, remonte dans son fiacre, et le cortège se met en route vers les faubourgs sous la pluie fine et froide. Puis au cimetière, c'est l'éternelle et lugubre comédie. Les gens qui, tout au long du chemin, ont ri d'un scandale arrivé la veille et qui se composent aujourd'hui un visage digne du chagrin en se rongeant autour de la fosse béante. L'orateur ridicule qui ment comme un dentiste en parlant du mort dans l'espoir de quelques réclames et dans un coin témoignage de la belle existence du défunt, sa maîtresse, une catin hors d'âge, dont le deuil semble un déguisement et dont les larmes font comme le maquillage. Il en a assez, l'homme nerveux. Il prévoit qu'à la sortie, il faudra encore distribuer des poignées de main déshonorantes. Alors il s'esquive avant la fin, et se dérobant derrière un magnifique monument annonce élevé à la mémoire d'un fameux marchand de nouveautés, il s'enfuit dans une allée déserte du cimetière. Il ne pleut plus, mais ce ciel couleur de suie, des feuilles mortes dans la boue, ces arbres noirs dégoûtants sur les flotombes et ce vent malsain, ce vent d'épidémie qui passe en gémissant, oh, c'est sinistre! Le rêveur solitaire éprouve tout à coup une inexprimable détresse. Il songe qu'il n'est plus jeune, qu'il se porte mal, que sa vie est contentieuse et précaire, et que ce n'est plus rien, mais ce n'est rien que sa réputation si enviée par ses confrères, que sa gloire de papier. Alors il se dit, que lorsqu'on le mettra, lui, en terre bientôt, les choses se passeront comme pour cet homme taré. Même crosse de fusil sonnant sur les dalles de l'église, mêmes indifférents dans des fiacres causant de leurs petites affaires, même grotesque en cravate blanche, débitant des sottises avec une émotion de cabotin, tandis qu'un ami complaisant s'abrite sous un parapluie. Et il est tellement saturé de tristesse et de dégoût qu'il voudrait être mort déjà et que ce fût fini, tout à fait fini. Oh, comme on doit bien se reposer ici. Alors, dans le vent qui murmure et qui pleure, en inclinant les ifs, il croit entendre réponse à son affreux désir. Les paroles qui lui rappellent les heures excellentes de sa vie, les paroles qu'il n'entendra plus prononcer, qui n'a que par sa mère bien-aimée et par sa maîtresse la mieux chérie. Maintenant, il s'agit de faire dodo.